Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
C'est l'affaire judiciaire la plus mystérieuse des 40 dernières années. Qui a tué le petit Grégory ce 16 octobre 1984 ? Des années d'enquête et de silence. Et cette semaine, cette décision inattendue de la Cour d'appel de Dijon. Les juges demandent de nouvelles analyses. On va de nouveau faire des recherches ADN, mais aussi tenter de faire parler les enregistrements audio du fameux corbeau. Ces nouvelles investigations peuvent-elles permettre de connaître enfin la vérité ? Pourquoi cette décision des juges ? Toutes les explications avec nos invités dans un instant, mais d'abord, sur quoi vont porter exactement ces analyses? Le détail avec Elisa Fradin.
La Vologne, 16 octobre 1984. Le corps du petit Grégory Villemain vient d'être repêché dans la rivière. Son anorak, son pantalon et les cordelettes qui ont servi à l'attacher sont mis sous scellé. De l'ADN a été retrouvé sur ces objets. En s'appuyant sur les progrès de la science, les experts vont pouvoir réaliser de nouvelles comparaisons entre ces traces ADN et les protagonistes du dossier.
Certains ADN et mélanges d'ADN avaient été identifiés, mais tous n'ont pas fait l'objet de comparaisons avec certaines personnes. Donc c'est simplement un complément qui a été sollicité.
Mais l'espoir des parents de Grégory réside surtout dans une étude de faisabilité. Les enquêteurs doivent déterminer si une empreinte vocale peut être identifiée sur les enregistrements audio du ou des corbeaux qui leur téléphonaient à l'époque du meurtre.
Oui.
La question qu'on se pose, c'est de savoir si, justement, à partir des enregistrements du corbeau, on peut, je ne sais pas si le terme est exact, mais isoler la voix, retrouver la voix, pour pouvoir faire des comparaisons.
Complot familial, vengeance d'un tiers, parviendra-t-on enfin à identifier le ou les assassins de Grégory Villemain ? Presque 40 ans après les faits, le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon semble toujours y croire.
Et invitée d'affaires suivantes, Catherine Tardrou, bonjour, merci d'être avec nous, ancienne grand reporter au Parisien, autrice notamment de Grégory, le dossier de l'affaire aux éditions Michel Lafon. Carrère, vous suivez cette affaire depuis le tout début. On va évidemment essayer d'y voir un peu plus clair avec vous sur les nouveaux éléments de la semaine et évidemment sur cette histoire. Sébastien Aguilar, bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes policier scientifique, vous êtes par ailleurs porte-parole du syndicat du SNIPAT. Avant de venir dans le détail des analyses qui vont être conduites et vous allez nous expliquer tout cela dans le détail, il faut peut-être dire un mot des parents du petit Grégory qui ont demandé à la justice de relancer ces enquêtes. Catherine Tardou, c'est l'histoire de deux parents qui ne lâchent pas, ne veulent pas abandonner l'espoir de savoir la vérité.
Je pense qu'ils veulent savoir la vérité. Je pense qu'ils veulent savoir exactement ce qui est arrivé à leur petit garçon. Et on ne se rend pas compte, je veux dire, de ce qu'ont souffert ses parents. Surtout quand Christine a été accusée d'avoir tué son propre fils. Enfin, c'est épouvantable ce qui leur est arrivé. Alors apparemment, moi je n'ai pas de contact du tout avec eux, mais apparemment ils vont bien. Je veux dire, ça se passe bien. Ils ont d'autres enfants qui sont grands maintenant, qui ont fait d'excellentes études. Je pense que même peut-être que Jean-Marie est à la retraite maintenant. Peut-être pas quand même, pas tout à fait. Et je crois qu'ils vont plutôt bien, mais ils veulent savoir.
Pardon Catherine, mais en tuant Bernard Laroche, est-ce que M. Villemain, le père de Grégory, je vais y arriver, Jean-Marie Villemain, est-ce qu'il n'a pas tué la vérité ou une partie de la vérité?
Non, je ne crois pas. Je veux dire, moi, je ne sais pas si je n'ai pas d'opinion sur la culpabilité ou l'innocence de Bernard Laroche, mais je pense que si l'instruction avait été menée d'une manière rigoureuse, on aurait dû trouver cet assassin. Mmh. Tout le monde sait que l'instruction, dès le départ, a été une catastrophe.
Et toute la question est donc de savoir si justement on peut rattraper cette catastrophe. Ça, c'est une grande inconnue. On va parler des tests ADN qui vont être faits. Pour qu'on soit précise peut-être, Catherine, ces tests ADN, sur quoi vont-ils être faits? Les cordelettes, il faut rappeler, l'anorak, les cordelettes, tout cela?
Oui, alors d'après ce que j'ai compris, on va refaire des analyses ADN, de recherche ADN sur les enveloppes du courrier du corbeau, sur l'anorak et sur les cordelettes qui avaient été retrouvées.
Cordelettes qui tenaient le petit garçon.
Voilà, qui tenaient le petit garçon.
Sébastien, refaire des analyses ADN, là il faut que vous nous expliquiez, parce qu'il y en a déjà eu, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui?
Alors, déjà, depuis donc les dernières analyses génétiques qui ont été faites datent de 2009 et 2011, donc sous l'impulsion de l'École des sciences criminelles de Lausanne. Depuis donc on va dire 10-15 ans, on a une nouvelle technique au niveau de la génétique qui est utilisée, qui s'appelle l'analyse d'ADN haut débit.
Ouais.
Donc l'analyse NGS, donc nouvelle génération, qui va permettre d'analyser donc l'ADN sur des petits fragments donc de l'ADN, mais sur plusieurs morceaux, donc des centaines voire des milliers de fragments, contrairement à l'ADN on va dire classique où on analyse que une dizaine de fragments. Donc en fait au niveau de l'ADN, on a énormément d'ADN partiel, mélangé, contaminé dans cette affaire.
Oui.
Peut-être que justement l'analyse haut débit pourrait permettre d'avoir un profil génétique exploitable qui pourrait être comparé.
Ça veut dire que là, contrairement à ce qui a pu avoir eu lieu par le passé, ça pourrait matcher avec l'ADN de quelqu'un, dire vraiment oui, il y a l'ADN de telle personne sur la cordelette, sur l'anorak.
Alors, les chances sont quand même infimes parce qu'on sait que sur la scène de crime, il y a eu énormément de contamination. En 1984, on n'avait pas la connaissance actuelle sur tout ce qui est génétique. Donc, on le voit sur les images, on n'a pas de combinaison, on n'a pas de masque.
Ouais.
Les scellés ont été trimballés d'enquêteur en enquêteur. Les experts n'ont pas pris les précautions nécessaires. Donc, sur ces scellés-là, on a énormément de contamination. On a également des dégradations donc de traces. Donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de avec ce qui reste hein, au niveau des éléments matériels, parce qu'il faut savoir que quand vous faites une analyse génétique, on appelle ça une analyse destructive. Donc en fait, quand vous avez un objet, vous allez soit utiliser un écouvillon donc de type ouais. coton-tige en récupérant un maximum d'éléments biologiques mm-hmm. dessus, soit avec l'accord du magistrat, vous allez demander à faire des éléments donc destructifs, à récupérer, on va dire, par exemple un timbre, vous allez l'utiliser quasiment dans sa totalité, voire la moitié, et donc vous n'avez plus la possibilité de faire des analyses ultérieures. Donc aujourd'hui, en fait, les magistrats vont essayer de voir avec le peu d'éléments matériels qui restent, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Alors, il y avait eu Sébastien, mais c'est vrai que bon, non, on ne s'est pas forcément très étendu là-dessus, mais en 2017, je crois, il y a eu de nouvelles analyses qui ont été faites par le laboratoire du professeur Christian Doutremepuiche, qu'on avait reçu dans l'affaire suivante, pas sur ce sujet, et qui avait coûté très cher ces analyses. Et il y a eu discussion entre la présidente de la Chambre de l'instruction, qui faisait office de juge, donc qui reprenait le dossier, et le procureur général Jean-Marie Bonnet de Dijon, qui avait dit non, ça coûte trop cher, on ne le fera pas. Ça a été fait quand même, ça a coûté 620 000 euros. Donc des prélèvements sur chaque centimètre carré de la doudoune que portait Grégory, son pantalon, ses chaussures, les cordelettes je crois aussi. Donc ça veut dire que ça a encore contaminé et abîmé les vêtements, les scellés.
Oui, parce qu'en fait, vous allez justement, quand vous dites centimètre carré par centimètre carré, c'est vraiment le cas. Donc on va découper vraiment cet anorak, ces cordelettes, et en fait, à la fin, il va rester quasiment plus rien. Donc il faut juste savoir est-ce qu'aujourd'hui, on conserve encore des éléments en espérant que dans le futur, on puisse analyser ces traces-là, ou est-ce qu'aujourd'hui, on utilise la quasi-totalité ouais. des éléments qu'on a et on lance absolument tout ce qu'on peut lancer.
On peut imaginer que si les juges acceptent de faire ces analyses, c'est qu'ils ont le bon espoir qu'on puisse en tirer quelque chose. C'est au moins l'hypothèse
oui,
qu'on peut formuler.
Mais il faut savoir aussi que les magistrats du siège ou du parquet sont en relation, on va dire, constante avec les experts, soit ouais. de l'IRCGN, soit du Service national de la police scientifique à Écully. On a des collèges d'experts qui sont là justement pour orienter ces magistrats-là, en disant, ben voilà, depuis quelques années, on utilise telle ou telle méthode. Éventuellement, avec ce que vous avez comme élément matériel, on est capable peut-être d'avancer scientifiquement sur ces dossiers.
D'où ces nouvelles analyses. On va essayer de voir si cet ADN match, Catherine, avec des gens qui sont déjà dans le dossier.
Oui, vraisemblablement, puisque... Parce que cette affaire peut au fond être une affaire de famille.
On a le sentiment
donc,
que c'est ça.
On a
ça,
le sentiment hein. que c'est une affaire de famille. Donc, on va comparer, on va voir si par hasard, par preuve scientifique, il y aurait des traces des gens qui sont déjà dans le dossier.
Votre sentiment, parce qu'effectivement, cet ADN va être comparé avec les gens qui sont dans le dossier. C'est que la vérité, elle est là. Elle est dans ces gens autour du petit Grégory.
Moi, c'est ce que je pense, oui. La solution de ce crime, de ce meurtre abominable, de cet assassinat, est dans l'entourage de... qui, je ne sais pas, et je ne me permettrai pas de le dire. Mais je pense que c'est effectivement dans un cercle relativement proche des époux Villemain.
Il y a un autre élément qui va peut-être être analysé, ce sont les fameux enregistrements audio du corbeau. Je vous propose qu'on réécoute un extrait de ces fameux appels qui ont été passés notamment aux parents du petit Grégory quelques jours seulement après la mort du petit Grégory. Ces appels, évidemment, ils sont au cœur de l'enquête depuis très longtemps. Là, on va mener, vous nous expliquez, Sébastien, une étude de faisabilité pour savoir si on pourrait déterminer la voix de la personne qui parle.
Alors, en fait, ce qu'on va regarder déjà, c'est si ces traces donc vocales sont exploitables. Donc, la dernière fois qu'on a utilisé donc ces techniques-là, c'était en 2010. Donc, il faut savoir entre 2010 et 2024, donc quelles sont les techniques qu'on a avancées. On a notamment l'intelligence artificielle qui a permis d'avancer donc sur le sujet. On a des traces vocales qui datent il y a 40 ans, de très mauvaise qualité. On l'entend très bien là avec un bruit de fond et surtout avec une personne qui travestit sa voix. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué d'un point de vue criminalistique. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déjà savoir est-ce que ces éléments-là sont exploitables. S'ils sont exploitables, est-ce qu'on peut les comparer ? Il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on fait généralement quand on est enquêteur ou dans la police scientifique, c'est de comparer des traces entre elles. Donc là, les enquêteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est en fait comparer les différents audios qu'on a dans cette affaire, ouais. Savoir est-ce qu'on a une seule et même personne, est-ce qu'on a des personnes différentes. Donc déjà, ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, voir s'il est possible, justement, donc, de comparer, de faire un rapprochement, parce qu'on n'identifie pas formellement avec une trace vocale. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'empreinte vocale, mais de trace vocale. Et donc, on va comparer donc, ces audios avec les audios de l'époque, donc de toutes les personnes qui ont participé donc, à cette enquête et qui sont les différents protagonistes, avec justement les enregistrements liés aux interventions télévisées ou radio.
Alors, même question que pour l'ADN qu'on vous posait avec Philippe tout à l'heure. Est-ce que l'enregistrement, c'est des enregistrements magnétiques à l'époque, c'est de la bande. Est-ce que ça se dégrade? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on les repasse sur un support numérique pour les garder? Puis même troisième question, et si on les passe sur du numérique, est-ce qu'on a tous les bruits de fond? Est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on peut décomposer, comme on le faisait avec du magnétique, les sons, la voix, les bruits qui sont derrière, une musique, un carillon qui sonne?
Alors forcément, à chaque fois que vous allez donc manipuler ces objets-là, donc au niveau magnétique, mais aussi quand vous allez les transférer au niveau numérique, vous allez perdre forcément des informations. Donc c'est très difficile, on va dire, tout à l'heure on parlait d'isoler la voix d'un échantillon. Là on a un prélèvement donc sonore qui est extrêmement altéré, de qualité vraiment médiocre, et on l'entend donc une voix qui est travestie. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir rapprocher une personne.
Et la valeur devant un tribunal, ça pèse pas très lourd. Une voix, autant l'ADN, si ça tombe. Là, on a un nom, on a quelque chose, mais une voix, ça ne va pas peser très lourd, non?
Alors, il y a ça, mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'on travaille, on va dire, enfin, les enquêteurs travaillent à charge et à décharge. Donc, on pourrait très bien imaginer que l'objectif, forcément, c'est de rapprocher une personne donc, dans l'entourage de l'affaire du petit Grégory, mais on peut aussi peut-être écarter certaines personnes. Ouais, donc ça peut être aussi extrêmement important. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de rapprocher, peut-être qu'on arrive à écarter des
gens. Catherine Tardou, ce corbeau, il y a eu plein d'hypothèses. Il y a eu plein de gens qui ont été soupçonnés, voire accusés d'être le corbeau.
Alors, je crois qu'il y avait plusieurs corbeaux. Ce qui me semble, moi je suis toujours très prudente, c'est que tout le monde dans la famille Villemain élargi a été à un moment ou à un autre a été le corbeau. C'est-à-dire que je pense que tout le monde se donnait des coups de fil. C'est mon opinion. Voilà.
Pourquoi ?
Parce qu'il y avait des haines, des jalousies, on a raconté un petit peu tout et n'importe quoi, mais quand même, il y avait une grosse jalousie vis-à-vis de Jean-Marie Villemain, qui était le garçon qui avait réussi. Il était contremaître, il avait acheté un salon en cuir. Ouais, vous voyez, et puis il y avait des histoires de famille, des secrets de famille qui remontent à des années et des années. Et tout ça a fait qu'il y avait des espèces de haines recuites qui circulaient dans cette famille.
Vous qui connaissez bien les lieux pour y avoir été, vous qui connaissez les différents protagonistes, est-ce que le fait de relancer des enquêtes, à un moment où les protagonistes arrivent, le faire offense, mais plutôt en fin de vie, peut délier des langues ?
Écoutez, si ces gens-là se sont tus pendant 40 ans, je ne vois pas pourquoi ils se mettraient à parler soudain. Ça m'étonnerait beaucoup. Et il faut quand même aussi se rendre compte que les personnes les plus âgées, elles sont disparues. Les parents de Jean-Marie Villemain sont morts tous les deux. Jackie, je crois, le frère de Jean-Marie Villemain, est mort. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Donc, alors, moi, je pensais... J'ai pensé à un moment donné que peut-être que la mère de Jean-Marie Villemain avait une idée de ce qui s'était passé. Mais elle est partie sans rien dire.
Vous croyez qu'on peut encore savoir ?
Je l'espère. Croire, c'est très optimiste.
L'espérer, et on a la science pour ça. Merci beaucoup, Sébastien Aguilar, d'être venu nous éclairer sur toutes ces analyses qui vont être faites. C'est beaucoup plus clair. Merci, Catherine Tardreau, d'être venue sur le plateau. D'affaires suivantes, dans un instant, l'affaire de la disparition du petit Émile est-elle à un tournant ? D'ici quelques jours, une mise en situation sera organisée par les juges, l'équivalent d'une reconstitution où tous les protagonistes du 8 juillet seront présents. Leur version sera confrontée à la réalité. Alors, la vérité peut-elle jaillir à cette occasion ? Tous les détails avec nos invités dans un instant.
BFM Radio.
h 25 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes. Depuis le 8 juillet 2023, la disparition du petit Émile dans le village du Auvernais reste un mystère total. Mais l'enquête pourrait bien connaître un rebondissement ces tout prochains jours. Les juges ont en effet décidé de procéder la semaine prochaine à une mise en situation. C'est le terme officiel, autrement dit une reconstitution de ce samedi après-midi où tout a basculé. Les protagonistes de l'époque seront tous sur place et leur version confrontés au terrain, un exercice qui peut s'avérer décisif, tout particulièrement au moment où des questions sur la personnalité du grand-père ont refait surface. Elisa Tran.
Les grands-parents d'Émile, les oncles et tantes, toutes les personnes présentes dans le hameau au moment de la disparition du petit garçon sont convoquées pour reconstituer avec le plus de précision possible cette journée du 8 juillet 2023. Les juges d'instruction vont chercher à vérifier si les témoignages des uns et des autres sont réalistes, cohérents, comme celui de ses voisins qui disent avoir aperçu Émile dans la ruelle principale du Auvernais vers 17h15, à une vingtaine de mètres de la maison familiale.
On a deux témoignages contraires. Il y en a un qui aurait vu Émile descendre vers le cœur du village et l'autre monter vers là où les enfants ont leur cabane et là où c'est en fait le plus dangereux. C'est là où c'est à flanc de coteau, il y a vraiment une falaise.
Les chiens renifleurs, eux, perdent la trace d'Émile près du lavoir. Malgré les fouilles, pas de trace, pas de corps. Comment Émile a-t-il pu se volatiliser dans un périmètre si étroit ? À ce moment-là, il était sous la surveillance de son grand-père. Comme chaque membre de la famille, les antécédents judiciaires du patriarche ont été passés au crible. Selon les révélations du Canard enchaîné cette semaine, celui-ci a le statut de témoin assisté dans une affaire de violence sur des enfants dans une communauté religieuse éducative du Pas-de-Calais où il a vécu dans les années 90. Frère Philippe avait alors la réputation d'un homme rigide, aux méthodes parfois brutales.
C'est une affaire distincte, ça ne veut pas dire qu'on le soupçonne dans l'affaire Émile, mais forcément, dans la disparition d'un enfant, quand on sait que quelqu'un est capable de lever la main sur des enfants, c'est une information qu'on prend en compte, ça ne fait pas l'enquête pour autant.
8 mois après la disparition d'Émile, les gendarmes n'excluent pas de refouiller la zone. Une vingtaine d'enquêteurs travaillent par ailleurs sur les données téléphoniques et le matériel informatique saisi.
Et avec nous, sur le plateau d'Affaires Suivantes, le général François Daoust. Bonjour, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Vous êtes professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Boris Karlamov, bonjour, journaliste police-justice BFM TV. Vous suivez le dossier du petit Émile depuis le tout début, donc on va reprendre évidemment tout cela avec vous. Et puis Ixchel Delaporte est également avec nous. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste indépendante. Vous êtes autrice de cet ouvrage, Les enfants martyrs de Riomont, enquête sur un pensionnat intégriste aux éditions du Rouergue. On va en parler parce que cette semaine, vous avez révélé que le grand-père du petit Émile avait fait partie de ce pensionnat et c'est évidemment un éclairage en plus dans cette affaire. Commençons par cette mise en situation. Alors, il faut bien expliquer, on ne dit pas reconstitution, le terme exact, c'est mise en situation. Bon, c'est un peu pareil. Mais le terme, c'est mise en situation, mais c'est pas pareil. Moi, je simplifie, mais vous, vous allez préciser les choses. En quoi ça consiste exactement ?
Alors, l'objectif pour les magistrats instructeurs ainsi que les enquêteurs, c'est refaire ce déroulé de la journée du 8 juillet aux alentours de 17h15 où Émile a donc disparu devant le domicile de ses grands-parents au Auvernais, rejouer ce jour-là et puis pour trouver aussi peut-être des incohérences entre les déclarations des témoins oculaires en audition et la configuration des lieux. Donc, ils espèrent, ces enquêteurs, eh bien qu'il y a un indice qui se dégage de cette journée. On sait que ça va se déroulé jeudi prochain. Jusqu'à la dernière minute, cette mise en situation, elle peut être annulée puisqu'il y a des facteurs climatiques entre guillemets qui vont entrer en jeu. Ça devrait durer toute la journée. Il y aura les habitants du Auvernais qui étaient présents au moment de la disparition, les touristes, certains touristes du moins qui étaient présents au moment de la disparition et puis surtout le grand-père d'Émile, puisqu'il est la dernière personne à l'avoir vu. Il y a deux témoins oculaires à notre connaissance, mais deux témoignages qui, on le sait, divergent. Ouais. L'un voit Émile remonter et l'autre voit Émile redescendre dans la
rue. On va reprendre tout ça dans le détail. Il y a plein de choses dans ce que vous nous dites passionnantes. Général, je m'appuie sur ce que vient de dire Boris. Ça veut dire qu'on reprend tous les procès-verbaux qui ont eu lieu, toutes les auditions qui ont eu lieu, toutes les déclarations qui ont eu lieu, qu'on met les gens. Vous nous avez dit, vous êtes là. Est-ce que c'est faisable ou pas ?
C'est tout à fait ça. Là, c'est cette mise en situation. En fait, vous parliez tout à l'heure, mise en situation, reconstitution ou autre. Dans le code de procédure pénale, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'article 92 qui dit « Le juge d'instruction accompagné de son greffier peut se transporter sur les lieux et faire toute opération qu'il jugera utile ». Donc là, en l'espèce, il souhaite au pluriel, eh bien, une mise en situation. Et c'est intéressant que ça soit au pluriel, parce que ça évite l'effet tunnel qui est « j'ai une idée et je vais rester sur une seule hypothèse » et on a des regards croisés pour cette mise en situation.
Une fois qu'on a la mise en situation, qu'on sait que chacun était là, en fait, on prend le plan du village et on met des pions.
Voilà,
on met les pions est ici, oui, machin est là,
tout à fait.
Voilà. Après, on fait quoi ? On compare à quoi ?
Alors, on compare aux premières déclarations qui avaient eu lieu lors des secours, qui n'étaient pas encore la phase judiciaire. Puis on reprend les témoignages, puisqu'ils ont été réentendus dans le cadre de l'affaire judiciaire, et on voit où est-ce qu'ils étaient, et on va leur demander de se mettre là où ils étaient quand ils affirment « j'étais là, j'ai vu, mon téléphone était à tel endroit ».
La téléphonie, les heures.
La téléphonie, les heures, la position et la visualisation qu'ils pouvaient avoir les uns sur les autres par rapport à la topographie des lieux.
Si un tel dit « voilà, j'étais là, j'ai vu machin », enfin pardon pour les « j'ai vu X à tel endroit », on va lui dire « c'est pas possible parce que là à l'endroit où vous êtes, là, maintenant, vous nous dites que vous étiez là, il y a le mur de la maison qui vous empêche de voir, donc vous nous racontez...
Tout à fait. Vous êtes trompé, ou vous avez un souvenir qui s'est recréé, ou vous avez affabulé, ou vous êtes trompé de jour, ce qui peut arriver. Face à un événement, il peut y avoir une temporalité décalée, on a vu le petit la veille, et on a retransposé le jour d'après, en se disant, mais si, ça doit être ce jour-là que je l'ai vu. Bon, tout ça, c'est ce qui va être vérifié par les juges d'instruction, il y aura aussi les enquêteurs, il y aura tout le monde, et tout va être replacé. Et la façon dont ça se déroule, il y a deux façons possibles pour les juges. C'est soit chronologique, et on joue tout, mais ça va être assez haché, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « mais non, moi je le vois pas comme ça, c'était pas comme ça », ou on va jouer, c'est pour ça que c'est très long, chaque version, c'est-à-dire que... En fonction, le témoin va dire « moi j'étais là », etc. Et on redéroule selon la version du témoin numéro 1, et on recommence avec la version du témoin numéro 2, avec la version du grand-père, et là on va voir tout en plus d'autres mises en cohérence ou en incohérence.
Passionnant.
Voilà comment ça se passe.
Il y a trois moments, trois versions, en tout cas trois étapes clés. Vous m'en direz s'il y en a plus. Il y a la version du grand-père et de la grand-mère qui disent, voilà, Émile était chez nous, il était sous surveillance, il nous échappe. Ça, c'est une scène absolument cruciale. Puis il y a les deux témoignages aussi qu'il va falloir confronter au réel. C'est trois moments absolument clés dans la disparition d'Émile.
Oui, avec deux témoins. Donc le premier témoin, qui est un adolescent, dit que Émile était en train de descendre la rue devant le domicile de ses grands-parents en direction de ce fameux lavoir. On rappelle que c'est au lavoir que le chien Saint-Hubert a marqué la trace d'Émile pour la toute dernière fois avant qu'il se volatilise entre guillemets. Et puis il y a un second témoin. Là, c'est une personne à la retraite qui dit qu'Émile remontait vers l'espèce de petite colline qui se situe au-dessus du domicile des grands-parents. Il y a une cabane qu'Émile avait construite avec ses cousins et toute sa famille, puisqu'on le rappelle, c'est une immense famille, il y a énormément d'enfants. La maman d'Émile est l'aînée de 10 enfants. Et donc voilà, deux témoignages qui sont assez contradictoires. On ne sait pas, peut-être que depuis, il y a un nouveau témoin qui a fait, qui a fait surface, entre guillemets, mais ça n'a pas été porté à notre connaissance. Donc là aussi, ça va être intéressant de savoir vraiment quels témoins sont présents jeudi.
Rappelez-nous la version des grands-parents.
Alors, la version des grands-parents, c'est Émile, il a fait une longue sieste ce samedi 8 juillet. Il se réveille aux alentours de 17h. Le grand-père d'Émile est en train de charger sa voiture, puisqu'en fait, il veut installer une clôture pour ses chevaux. Donc, il a le coffre ouvert de la voiture. Émile est dehors. Le grand-père retourne dans la maison. Il se retourne. Émile a disparu. Il s'est passé un laps de temps vraiment très court. Un quart d'heure, même pas 10 minutes. Les grands-parents d'Émile vont le rechercher pendant une demi-heure, 40 minutes. Ils vont attendre 40 minutes avant de prévenir les secours. Et là, tout de suite, c'est un énorme dispositif qui va se mettre en place. Donc, avec ces battus, on a pu les suivre sur BFM TV notamment.
Juste dans le village, on saura où étaient les uns les autres, ce qu'on vu les uns les autres, si ça correspond à la réalité, ce qu'ils avaient la possibilité de voir ça ou ça. Mais on est obligé aussi de se transporter à l'intérieur des maisons, parce que quand on dit voilà, les deux témoins ont vu Émile passer, un vers le cabane, l'autre vers le lavoir. Il faut aussi savoir ce qui se passe dans la maison des grands-parents à ce moment-là, puis peut-être aussi dans la maison du voisin qui dit. Moi, par la fenêtre, j'ai vu quelque chose. Donc, alors, comment on fait? On fait d'abord le village, puis ensuite, on se transporte dans chaque maison. On va aller chez les grands-parents d'Émile, on va dire, voilà, qui était à table, qui était là, qui est allé chercher Émile. Quand le grand-père a pris Émile, au moment où il s'est réveillé, où étaient les autres? Vous étiez là, on refait tout, ensuite, maison par maison?
Alors, tout doit être refait. Après, ce sont les juges qui vont décider est-ce qu'ils rejouent tout ou partie. Mm-hmm. Là-dessus, c'est quelle est l'opportunité et quels sont les points sur lesquels ils ont besoin d'être éclairés. S'ils veulent tout jouer, tout sera joué. Et c'est en ça que les reconstitutions durent très longtemps, parce que justement, on part du début, qui était où et à quel endroit. Donc, chacun va reprendre sa place. Et on va essayer de voir toutes les incohérences qu'il peut y avoir, ou au contraire, la linéarité de l'action.
Et on se demandait tout à l'heure avec Philippe, quand vous aurez tout ça, est-ce que c'est un homme, des hommes qui vont comparer, ça colle pas, ou est-ce que c'est une machine, un logiciel?
Les deux. Les deux.
Mon général.
Les deux, mon général, là-dessus. Et vous connaissez, Dominique, c'est quand on travaille avec Anacrim. Eh bien, c'est à la fois les hommes qui ont collecté tous les témoignages, qui ont collecté tous les indices matériels, tous les faits, toute la temporalité, qui vont rentrer ça dans le logiciel, qui va faire une grande frise et les mettre en cohérence. Et s'il y en a un qui est décalé, ou dans le temps, ou indiciellement, eh bien, ça va ressortir.
C'est dire que ce moment va être absolument crucial. Cette mise en situation va intervenir aussi à un moment où on a appris des choses cette semaine, grâce à vous, sur le passé du grand-père d'Émile. Alors, il faut d'abord être très précis. Ce qu'on va dire là n'accuse absolument pas le grand-père d'Émile dans cette histoire. Ce sont des affaires totalement disjointes. Et vous prenez d'ailleurs soin de bien le rappeler à chaque fois, et c'est important. Vous avez enquêté sur un pensionnat catholique, intégriste, dans lequel travaillait le grand-père d'Émile. Et il est apparu qu'il était cité comme témoin assisté dans une affaire qui a été dénoncée par des anciens pensionnaires qui parlent de violence et de viol. Parlez-nous de ce pensionnat de Riaumont. Qu'est-ce qui s'y passait à l'intérieur?
C'est un pensionnat intégriste, catholique, traditionnaliste, dans lequel des familles de cette même obédience plaçaient leurs enfants. C'était un un lieu où les enfants devaient apprendre. Donc, c'était le niveau collège. Et ils avaient des cours par correspondance, les cours Atmer. Et puis, il y avait des laïcs et des prêtres qui encadraient et qui faisaient fonction un peu d'éducateurs dans cette école privée hors contrat qui est située à Liévin, tout en haut d'une petite colline entourée de bois et qui est aux allures médiévales, en fait.
Quel était le rôle du grand-père d'Émile dans ce pensionnat?
Eh bien, lui, il est arrivé d'abord comme chef scout, mais avec l'idée de devenir prêtre. Donc, il est devenu assez rapidement frère. Il savait qu'il s'agissait d'encadrer des garçons, c'est que des garçons, oui. Dans ce pensionnat. Et puis, voilà, donc lui, son travail, c'était d'encadrer et il vivait sur place, en fait. Après, il allait faire quelques apprentissages religieux à l'abbaye de Fontgombault de temps en temps, mais sinon, en règle générale, il était là H24.
Il est donc témoin assisté dans cette affaire qui remonte aux années 90, je parle sous votre contrôle.
Oui, c'est ça.
C'est quoi cette affaire?
Lui, il est témoin assisté dans une affaire où un ancien pensionnaire le vise pour des faits de viol et de violence sexuelle.
Très concrètement, c'était quoi, des coups?
Non, là, je vous parle que de viol et de violence sexuelle. Il est cité dans une affaire. Ce qui se passe, c'est que suite à cette plainte, oui, en fait, qui a été déposée en 2013, les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à ce lieu-là. Oui. Et en fait, ils ont déclenché au fur et à mesure une vague d'auditions, si vous voulez. Donc ça s'étale quand même sur plusieurs années, cette affaire. Où, du coup, à force d'auditionner des anciens, les anciens ont commencé à citer des noms d'encadrants en disant qu'ils se comportaient de manière très violente, en fait, et que c'était des coups, des brimades, des humiliations, et que le pensionnat avait vraiment une réputation très négative, qu'ils mangeaient des choses avariées, qu'ils leur donnaient des punitions qui étaient tout à fait disproportionnées, enfin, que c'était un régime militariste, très viriliste, très 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 dur, quoi. Et donc c'est là que, si vous voulez, on a aussi cette information supplémentaire selon laquelle le grand-père d'Émile avait des pratiques extrêmement violentes.
Michel, il était condamné pour ça?
Non.
Ou juste entendu?
Il a été entendu.
Il s'en défend?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il dit?
Bah, lui, il dit qu'il a donné des petits coups par-ci, par-là, que c'était pas méchant. Et c'est d'ailleurs la défense globale, hein, des moines de Riaumont, de dire une petite claque, ça a jamais fait de mal à personne.
Un coup de pied aux fesses.
C'est à l'ancienne, comme j'ai entendu des personnes dans les médias dire « mais c'était l'époque d'avant ». Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, ce pensionnat, il a été ouvert en 1960. Il a été fermé en 2019. Le rectorat de Lille a enlevé l'agrément pour cette école privée hors contrat. Et les méthodes, elles ont toujours été les mêmes. Il y a un continuum de violence, en fait. On faisait comme ça avant. C'est que, en fait, dans l'époque, il y avait le grand-père d'Émile, les enfants portaient des culottes courtes en cuir, hiver comme été. Ils étaient maltraités. Et en fait, c'est une histoire d'héritage de la violence. C'est comme ça qu'on fait là-bas. C'est une manière d'éduquer les enfants.
Il y a un vrai sujet sur ce pensionnat, c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, passionnant. Oui. S'y retrouve donc mêlé le grand-père d'Émile. Encore une fois, on dissocie bien les deux affaires. L'un ne veut pas dire qu'il est responsable de quoi que ce soit. Ce qu'on peut juste dire, c'est que dans le village, on le dit que c'est un grand-père qui a un tempérament dur.
Oui. C'est ça, on le dit, et depuis le départ, on n'a pas attendu que ces révélations soient faites concernant le passé trouble, entre guillemets, du grand-père. J'ai pu m'entretenir avec un habitant, on va dire, historique du Vernet, mercredi dernier, qui me disait, en parlant de Philippe le grand-père, il est très autoritaire, c'est de notoriété publique, il peut parfois avoir la main lourde. Il précise ses propos en expliquant, ses enfants ont peur de lui, mais bon, de là à dire qu'il aurait pu jouer un rôle dans la disparition de son petit-fils, eh bien, et là, il marque un silence. Donc voilà, il fait quand même la différence entre la disparition d'Émile ainsi que cette affaire dans cette institution catholique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des soupçons qui pèsent quand même sur cette famille. On le rappelle, aucun membre de la famille n'a été placé en garde à vue et aucun membre de la famille n'a été mis en cause pour l'instant.
On rappelle qu'on disjoint bien ces deux affaires, mais c'était intéressant d'avoir les deux. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes et on suivra donc jeudi cette mise en situation. On ne manquera pas de la décrypter probablement dimanche prochain dans Affaires Suivantes. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau. Tout de suite, les invités de la semaine. À la question n'est peut-être pas de savoir si l'on peut Mais comment ? Comment défend-on un criminel qui a commis les pires horreurs ? Comment défendre une mère qui a noyé sa fillette de 15 mois ? Comment défendre une femme qui, à peine sortie de son ventre, a tué et enterré ses 8 bébés ? Comment défendre Michel Fourniret ou encore Cécile Bourgeon ? C'est à cette question que répond le journaliste Vincent Mantinghen dans son livre qui vient de paraître, « Les défendre tous », une plongée passionnante dans le métier d'avocat pénaliste. Il sera notre invité dans un instant avec l'avocate Fabienne Roy-Nancion qui a défendu Fabienne Cabou. Elle avait tué sa petite fille de 15 mois seulement. Retour sur cette affaire avec Elisa Trane.
Lorsque son avocate la rencontre après son interpellation, Fabienne Cabou n'est ni triste ni gaie. C'est une femme déroutante qui conçoit l'atrocité de son geste avoir tué son enfant, mais estime ne pas avoir eu d'autre choix. Le 19 novembre 2013, peu après 21h, cette mère de 36 ans abandonne sa fille de 15 mois, Adélaïde, sur la plage de Berck-sur-Mer, à moins de 3 heures en train de chez elle. C'est la marée montante, il fait nuit. En quelques minutes, la fillette se retrouve noyée dans les flots. Le lendemain matin, un pêcheur découvre le corps de l'enfant, enveloppé dans une combinaison sombre. Fabienne Cabou, elle, après une nuit à l'hôtel, reprend son train vers Saint-Mandé, où elle sera arrêtée quelques jours plus tard. Elle avoue avoir retenu la plage de Berck en raison de la tonalité désagréable du nom. Une mise à mort préparée, inéluctable selon elle, persuadée d'avoir libéré sa fille d'un avenir malheureux. À son procès en juin 2016, les jurés découvrent une femme intelligente, mais glaçante avec ses histoires de sorcellerie et de voix maudites. Une grande malade mentale, décrit l'avocat du père de la fillette. Fabienne Cabou écope de 20 ans de prison, une peine réduite à 15 ans lors du procès en appel. Elle vit aujourd'hui libre sous contrainte.
Comment défendre Fabienne Cabou ? C'est Fabienne Roy-Nancion qui l'a fait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Maître, vous êtes avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer. À vos côtés, Vincent Mantinghen, évidemment que nos téléspectateurs connaissent bien.
Bonjour.
Bonjour Vincent, journaliste police-justice à BFM TV et grand reporter. Et vous sortez donc les défendre tous. Vous donnez la parole à ces avocats qui racontent comment ils ont défendu des gens qu'on a peut-être comme pressentiment qu'ils sont indéfendables. Je voudrais juste qu'on parle du tout début d'abord de votre ouvrage. Quand on est journaliste, on parle des affaires des autres. Vous parlez un peu de vous au tout début, sur la manière dont vous vous êtes intéressé à la justice, dont vous êtes intéressé au travail des avocats pénalistes à partir de l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui vient témoigner. C'était à la cour de Douai, c'est ça ?
Exactement. On est à l'époque en 2008, si mes souvenirs sont bons, et c'est pour moi quasiment la première rencontre avec la cour d'assises et même la justice au sens large, on pourrait dire. Et je découvre comment ça fonctionne et je découvre surtout voilà, la douleur, la souffrance que les gens peuvent ressentir. On est là dans une affaire comme il y en a beaucoup. C'est l'histoire d'un homme qui a tué un petit garçon, qui l'a torturé pendant des semaines. Le petit garçon a fini par en mourir. Cet homme est jugé. Il est défendu par Franck Berton, qui est déjà un grand pénaliste à l'époque et qui va aussi, on va dire, m'apprendre comment les choses fonctionnent. Et je suis marqué par le témoignage du grand frère de la petite victime qui a 9 ans et qui arrive à la barre avec sa peluche, son doudou, pour se donner un peu de courage, venir raconter ce que son beau-père a fait subir à son petit frère et venir envoyer un message à sa mère en disant « Je ne veux plus jamais te revoir ». Et on sort de là ébranlé, mais véritablement ébranlé. À l'époque, je suis un jeune journaliste, j'ai pas d'enfant moi-même, mais malgré tout, je suis vraiment touché. Et il y a quelque chose d'assez remarquable dans ce moment-là particulier, ouais. C'est qu'on sort de la cour d'assises et sans rien se dire avec les autres journalistes, avec les autres avocats, on décide on a tous besoin d'une pause de 10 minutes. Voilà, on va pas avec le micro tout de suite voir les avocats, les interviewer, commencer à travailler parce que à ce jour-là, ça a charrié tellement de douleur cette audience qu'on se met d'accord tacitement pour faire une pause de 10 minutes.
C'est la pression qu'il y a dans toutes ces affaires. C'est le poids de toutes ces affaires parce qu'on défend, je le disais, des gens qu'a priori on se dit indéfendables. Quand Fabienne Cabou, on vient de revoir l'histoire, a donné la mort à sa petite fillette de 15 mois en la laissant sur la plage de Berck, quelle est votre première approche ? Comment vous vous y êtes pris ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
D'abord, je m'interroge. Parce qu'une mère donne la vie, elle ne la reprend pas, et si elle la reprend, c'est que quelque chose a déconné quelque part. Et donc, a priori, je m'interroge. Et je suis, pas curieuse parce que ça n'est pas le bon terme, mais en tout cas j'ai envie de connaître cette femme et de comprendre comment ça a fonctionné.
Vous racontez dans l'ouvrage, permettez-moi l'expression, un moment où vous êtes pris à partie très violemment par des gens à la sortie du palais de justice, comme si vous deveniez vous-même le monstre que Fabienne Cabou incarnait.
Ça c'est le lot des pénalistes qui défendent ce que l'opinion publique qualifie d'indéfendable. nous sommes très rapidement assimilés à notre client. Et dans l'esprit de tout un chacun, on défend le crime, ce qui est pas vrai. On ne défend pas le crime, on défend le criminel, on défend d'abord l'homme ou la femme.
C'est dur.
Bien sûr que c'est difficile.
Et en même temps, vous dites, elle a été condamnée, Fabienne Cabou, à 20 ans en première instance. Mm-hmm. Et donc Vincent écrit dans une phrase que vous avez prononcée, « C'est extrêmement lourd, 20 ans, soupire l'avocate. »
Oui, je l'ai dit.
C'est lourd, 20 ans, pour avoir tué Adélaïde, l'avoir abandonnée sur la plage,
c'était
à la marée montante.
C'était
je vous pose volontairement la question aussi brutalement.
C'est bien. Et il faut la poser de cette façon, c'est vrai. Oui, c'était lourd, 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions sur une altération du discernement extrêmement large. Et même, disaient les experts, à la limite, à un cheveu de l'abolition du discernement.
Qui va venir ensuite en appel, puisque le procès en appel, là, on va beaucoup jouer la psychiatrie, la sorcellerie, le vaudou qui renvahit l'esprit de Fabienne Cabou, et qu'elle, la peine va être amenée à 15 ans. Mais pour ceux qui écoutent, maître.
Oui. Pour ceux qui écoutent, ben, il faut qu'ils.
Et qui se disent, c'est quand même profondément horrible d'abandonner son enfant comme ça sur une plage et de repartir. Et elle a cette phrase, hein, pendant l'instruction, elle dit en fait, j'ai mis fin à ses jours. Parce que c'était plus simple comme ça.
Mais ce qui est horrible, Monsieur Rizet, c'est l'image de cette petite fille sur cette plage à Berck. C'est ça qui est horrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Fabienne Cabou était malade psychiquement. Elle était atteinte d'une pathologie mentale au moment de l'acte. Les experts l'ont qualifiée de délire paranoïaque en secteur. Elle était elle était malade psychiquement. Elle était folle. Oui, alors on peut effectivement employer ce terme, mais et donc l'honneur aussi de notre démocratie, non seulement de défendre, mais de ne pas condamner les fous.
C'est fascinant parce que c'est exactement ce qu'il y a au cœur de cet ouvrage.
Je sais que vous prêchez inconvaincu, et c'est la raison pour laquelle je continue à prêcher avec vous.
Vous prenez l'exemple de Maître Vavasseur, qui va devoir, vous l'interviewez, hein, qui va devoir défendre Michel Fourniret. L'une de ses premières réactions, c'est l'excitation professionnelle, et c'est la peur de la réaction de sa famille.
Il y a ça, effectivement, la réaction de ses proches, la réaction aussi au niveau professionnel. Allez. Il se demande à un moment donné... comment mes autres clients vont prendre le fait que je défends le tueur en série le plus abouti que la France ait jamais compté. Ça, c'est les mots de l'expert psychiatre Zaguri concernant Michel Fourniret. Puis, il s'interroge sur sa famille. Qu'est-ce qu'ils vont me dire au déjeuner dominical? Il se pose toutes ces questions-là et puis ils disent, voilà, je vais arriver au déjeuner, on va me dire alors comment va Michel en rigolant, en sachant que c'est un tueur en série. Donc, il se pose toutes ces questions et finalement, il les balaye assez rapidement d'un revers de main en disant « Mais en fait, je suis avocat pénaliste, mon travail c'est de défendre ces gens-là ». Il a cette phrase notamment, il dit « On est avocat pénaliste, on défend les poubelles de l'humanité ». C'est un mot qui est extrêmement fort. Mais il le dit, voilà, il faut quelqu'un pour les défendre là, sinon on bascule dans quoi ? La vengeance, la barbarie, nous on est dans une démocratie, c'est pour ça qu'aujourd'hui ces gens-là doivent être défendus et doivent être défendus par des gens qui mettent leur engagement au-dessus de tout.
Avec ce livre, on va aussi dans les cuisines, c'est-à-dire dans la manière dont vous préparez ce type de procès. Vous prenez l'exemple de Franck Berton qui défend Dominique Cotrez. Elle a tué ses 8 nourrissons. Elle dit « J'ai été violée par mon père pendant l'audience comme une justification ». Franck Berton va utiliser cela et en fait tout va s'effondrer. Expliquez-nous.
Alors effectivement, l'affaire Cotrez est une affaire qui est très marquante. C'est donc une femme qui a été placée en garde à vue, on a découvert qu'elle avait donné la mort à 8 de ses bébés. On a retrouvé les cadavres des petits bébés, une partie dans le jardin de chez elle, une autre partie dans le garage à côté de la cave à fioul. Et l'une des explications qui est donnée durant toute l'instruction, jusqu'au début du procès, c'est en fait, ce ne sont pas les enfants de mon mari, ce sont les enfants de mon père qui abusaient de moi, père qui est mort... Ouais. Avant l'ouverture du procès. Et donc, effectivement, Franck Berton se sert de ça comme d'une stratégie de défense en disant, voilà, on peut comprendre le geste qu'elle a eu parce qu'elle a été abusée par son père, sauf que
à la barre lors du procès, lorsqu'elle est interrogée, elle finit par craquer et reconnaître qu'en fait, non, elle n'a pas été abusée par son père et que ce sont bien les enfants qu'elle a eus avec son mari.
Et Franck Berton a cette conclusion, ne jamais poser de questions dont on n'est pas certain de la réponse.
Exactement, pour un avocat. On dit aussi souvent que le client est le meilleur ennemi de l'avocat et là, en l'espèce, ça se remarque. Et effectivement, il a cette phrase dans le livre, ne jamais poser de questions dont on n'est pas sûr de la réponse, sinon à l'audience, c'est catastrophique.
Vincent, en lisant ce bouquin, moi, j'ai compris pourquoi tu étais aussi bon dans les affaires judiciaires et les commentaires des procès, sincèrement. T'es bon, mais là, vraiment, ce bouquin, il est fort. Mmh. Ça s'appelle « Les défendre tous » parce que « Les défendre tous », c'est une phrase dans une autobiographie d'Albert Nau. Alors, je savais que c'était un avocat, mais alors, c'est quand même un sacré avocat. Il a défendu Pierre Daval, puis il a démissionné. Il a défendu Céline. Il a défendu des gardiens du Struthof, le camp de concentration. Je crois que c'était le seul qui était en France.
Tout à fait.
Lucien Léger. La mort du petit Luc Taron, 64, le bois de Verrières.
Le Marcel Franchisi. Ouais. Lucien Léger, la personne qui a passé le plus de temps en prison en France.
Ouais. Et il était résistant, journaliste, avocat, c'est ton idole.
Alors c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais au-delà de l'image d'Albert Nau, c'est tous les avocats pénalistes. Et je le dis, ce bouquin aussi pour moi, c'est une forme d'hommage au métier d'avocat et c'est aussi pour rendre compte de l'admiration que je peux porter pour ce métier, parce que je trouve que de mettre sur ses épaules une partie du fardeau de ses clients, c'est quelque chose d'extrêmement courageux. Moi, c'est aussi un hommage à ce que font les avocats au quotidien que je voulais rendre dans ce livre.
Et ça transparaît de façon extrêmement forte. Les défendre tous aux éditions du Rocher. On vous y retrouve évidemment, maître. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Vincent. Merci. On vous renvoie vers cet ouvrage. Et on vous souhaite avec Dominique un bon dimanche. On vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Affaire suivante sur BFM Radio.